Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Pierre-Yves de Rolin. Porter son regard cette semaine sur la beauté du verbe de l'écrivain allemand Thomas Mann dans son court roman de 1903, Tonio Krüger, nom d'un héros dont l'extrême sensibilité ne peut qu'être source de douleur dans un monde aux interactions humaines trop brutales. Et plutôt que de vous lire un passage lyrique, j'ai choisi 5 lignes faisant allusion au corps en hommage au champ de recherche de notre invité. Le voici. Et Tonio Krüger se mit en voyage pour le Nord. Il voyagea confortablement, car il avait coutume de dire que lorsqu'on a une vie tellement plus pénible intérieurement que les autres gens, on a droit à un peu de bien-être extérieur. Notre invité est historien spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Il est directeur d'études à l'EHESS. Son captivant dernier ouvrage est paru au Seuil sous le titre « Histoire de la fatigue, du Moyen-Âge à nos jours ». Je ne connais personne qui ne soit pas concerné, hélas.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Georges Vigarello.
Bonjour.
Alors, première question inévitable, êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
C'est difficile de répondre par la négative.
Non ?
Non, c'est difficile. Je pense que lorsqu'on répond par la négative, c'est qu'on est quand même profondément débordé, profondément affecté, profondément torturé, profondément en malaise. Ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure tout de suite. Je crois qu'il faut ajouter deux choses. La première, c'est que de toute façon, la vie vous entraîne, la vie vous déborde, elle fait ce que vous êtes, et au fond, par certains côtés, elle est effervescente. Donc c'est très difficile de dire non à l'égard de la vie. Et en revanche, la deuxième remarque qu'il faut faire, c'est que lorsque vous êtes touché, par exemple blessé, lorsque vous avez une maladie, lorsque vous êtes épuisé, pour reprendre la question de la fatigue que vous évoquiez tout à l'heure, à ce moment-là, on se rend compte à quel point la vie est précieuse, la vie est riche, la vie est absolument centrale.
C'est drôle ce que vous dites, Georges Vigarello, puisque même si j'ai seulement la moitié d'une réponse avec ce que vous venez de dire, cela me fait penser aux propos sur le bonheur d'Alain, dans lesquels il dit justement que la seule véritable souffrance, finalement, c'est la souffrance physique à laquelle on ne peut pas échapper, alors que tout le reste est projection mentale.
Projection mentale, je ne sais pas. Je crois qu'il existe des souffrances psychologiques intérieures peuvent être dramatiques.
Qui ne reposent que sur la mémoire.
Oui, qui répond sur la mémoire, mais qui entraîne de l'affect, lequel affect précisément traverse le corps. Je pense que les deux sont atteints, et on voit tous, il y a des souffrances physiques et parfois psychologiques, pardon, qui parfois sont totalement intolérables, qui sont beaucoup plus relevées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient,
oui.
Et beaucoup plus sensibles à cela. Regardez la question des traumas, la manière dont les psychologues viennent immédiatement s'adresser à vous lorsque vous avez subi un choc physique ou psychologique, etc. Tout cela me semble très précieux concernant la manière dont l'histoire montre comment la préoccupation psychologique a grandi.
Mais d'ailleurs, vous faites allusion à ça dans votre histoire de la fatigue, Georges Vigarello. On est à l'époque de la notion de la conscience de nos insuffisances et de nos limites.
Oui.
Parce qu'on nous a trop demandé, en fait. On se demande trop.
Alors ça, je ne sais pas. Mais je pense, en revanche, que l'attention à soi ayant grandi, c'est très important comme problème, vous voyez. L'attention à soi, le fait de s'écouter, le fait d'être attentif à la manière dont on ressent les choses, tout cela a considérablement grandi. Je crois que le volume intérieur, que l'on ne voit pas, le volume intérieur s'est surdimensionné. Et du coup, vos propres limites intérieures, vous voyez, vos propres difficultés qui ne sont pas forcément physiques, mais qui entraînent de la résistance, qui entraînent de l'impossible, qui entraînent du négatif, cela se ressent plus et ça se traduit par de la fatigue.
Êtes-vous en bon terme avec vous-même, Georges Vigarello ?
Et ça renvoie à la question de tout à l'heure, du tout début. Comment vous dire non ? Je pense que c'est une question magnifique. Parce que c'est une question qui montre comment le temps vous oblige à vous adapter progressivement à la difficulté que représente tout simplement parfois le quotidien. Je m'explique. Je trouve que la jeunesse, c'est à deux immenses versants. La jeunesse, c'est une richesse absolument folle qui a toutes les dimensions possibles. Et en même temps, précisément, parce qu'elle a toutes les dimensions possibles, c'est un temps où les manques sont les plus importants. On peut pas s'imaginer projeter, on sait pas. On peut se projeter de mille façons, etc. Et chaque fois, il y a la présence du manque. Or, au fur et à mesure que le temps passe, je crois, je peux me tromper, mais en tout cas à titre personnel, je dirais. Au fur et à mesure que le temps passe, je crois que vos manques, vous arrivez à les saisir et vous arrivez dans une certaine mesure à les surmonter, à les éviter, à faire en sorte que vous soyez mieux ajusté avec vous-même. Et donc le temps, lorsqu'il est à mon avis vécu avec attention, avec ajustement, vous aide.
Tandis qu'avec le temps, nous manque de plus en plus de substances vitales.
Ah ben bien entendu. Il faut compenser ce manque de substances vitales par une énergie psychologique indispensable.
Alors Georges Vigarello, il y a une question que je ne pose généralement pas parce que je me concentre depuis des années sur la vie intérieure. Mais comment vous habitez votre corps et quel rapport entretenez-vous avec lui depuis que vous le considérez, puisqu'on le considère pas toujours dans l'enfance, on est assez.
Bien sûr, non, mais c'est une question qui ne peut pas ne pas m'atteindre très fortement personnellement, puisque quand même depuis l'adolescence, moi j'avais un père qui était sportif et qui m'a communiqué, mais de manière très sensible, je dirais très très souple, très fine, très subtile, très affective, qui m'a communiqué ce plaisir de d'éprouver l'activité physique. Et donc personnellement, j'ai toujours vécu avec ce sentiment-là, que au fond il y a une effervescence immense dans la manière dont vous pouvez vivre physiquement. Alors bien sûr, avec le temps, les choses s'éteignent un peu, mais vous continuez de vous écouter, vous continuez d'être attentif. Et peut-être ce qui reste, c'est très important ça m'a surpris en réfléchissant à votre question. Ce qui reste, c'est le fait que, par exemple, des échecs physiques, voyez-vous, voilà, la perte dans une course, par exemple, bien, vous restent. Continue de vous habiter. Alors que des échecs, moi ça, j'en ai eu beaucoup, des échecs, je sais pas, des livres qui sont pas faits, des thèses qui sont pas réalisées, bah ça s'oublie. Alors que me reviennent, c'est très curieux, hein, me reviennent des arrivées où je ne me suis pas suffisamment porté vers l'avant et où j'ai perdu.
Oui, c'est immédiat et tangible.
C'est immédiat, tangible et c'est physique. Donc finalement, l'importance du physique est beaucoup plus grande qu'on ne le croit.
Ouais, on va y revenir, on va se pencher sur la vie des idées et la vie du corps. Et dans un instant, avec vous, Georges Vigarello, il sera entre autres question de livres, de recherche et de savoir, de course et d'unification. Et nous recevrons les visites de Jean Gabin, Roland Barthes, Michel Foucault, Mozart, Balzac, Rousseau et peut-être Montaigne s'il tient parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte. Dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne. Elle ne m'a pas mené sereinement jusqu'à Rome. Ma route, ma route, ma route. J'ai passé les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère. Demande à ta sœur. J'ai passé le checkpoint tel un épouvantail. En frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif. Enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver et plus rien ne m'étonne. Ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule dans la nuit. Je voulais te paraître le meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant. Mais je levais mon verre à tous les éléments. Le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule. Dans la nuit morte.
morceau Ma route de Benjamin Biolay vient de résonner en studio. Nous sommes avec l'historien Georges Vigarello. Nous étions à l'intérieur de nos êtres et maintenant sortons. Georges Vigarello, ce qui vous donne envie de vous lever, ce sont les livres en cours de travail, la recherche, l'espoir de documents précieux et inattendus, la découverte de livres chez les libraires d'anciens, des rendez-vous, des rencontres. Vous souvenez-vous d'un document dont la découverte vous a profondément ému ?
Très franchement, il y en a plusieurs. Parfois, ce sont des documents complètement secondaires qui n'ont aucun intérêt a priori et qui peuvent se révéler dans la recherche fondamentaux. Ça me fait toujours penser à une remarque d'Umberto Eco disant « Un de mes étudiants était passionné par les guides de ville qui coûtent rien du tout, c'est 5 euros chacun. » Et il les avait accumulés et il avait fait une thèse sur la ville magnifique. Alors, l'exemple que je voudrais citer, c'est un texte parmi mille autres, hein, c'est un texte d'un Anglais qui s'intitule « Monsieur Sensitive ». Et cet Anglais écrit à la fin du XVIIIe siècle. Alors ce texte est complètement oublié. Il est, je dirais, dans les bas des camions, des brocantes. Et que disait-il ? Ah, il disait, vous vous rendez compte, quand je suis dans le lit et que j'ai une crampe, c'est quand même terrible. Quand je suis sur un fauteuil et que le foyer est désaxé, je souffre, etc. Et qu'est-ce qu'il montrait ? Il montrait finalement qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a une attention beaucoup plus précise, beaucoup plus intense, beaucoup plus qualitative à ce que moi, je considère comme très important et qui est la perception intérieure.
D'ailleurs, vous avez écrit un livre qui s'appelle oui. « Le sentiment de soi », Georges oui. Vigarello, oui. et vous citez Diderot.
Et je cite Diderot, bien entendu, parce que je pense que c'est un des premiers, à travers ce texte tout à fait magnifique qui s'intitule « Le rêve de d'Alembert », c'est un des premiers à avoir donné de l'importance à cet imaginaire intérieur. Par exemple, il cite le fait que d'Alembert raconte, en dormant, qu'il a les bras, il a le sentiment que les bras touchent la lune, que au contraire, ses pieds sont sur des ressorts, etc. Tout ça renvoie à la sensation intérieure. Or, cherchez des textes de ce genre au XVIIe, vous ne les trouvez pas. C'est ça qui est important, vous voyez, et c'est ça qui justifie la démarche historique, montrant que au fur et à mesure que le temps passe, un approfondissement sincère dans la manière dont vous vous éprouvez physiquement et dont, évidemment, ensuite, vous vous éprouvez psychologiquement.
On va faire beaucoup d'allers-retours entre notre époque et le XVIIIe siècle. Georges Vigarello, justement, aimez-vous notre époque ?
Absolument. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais on adhère, vous savez, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on adhère à ce qui vous entoure, vous êtes pris par ce qui vous entoure. Il y a des choses que je n'aime pas, qu'est-ce que je peux dire ? Mais très vite, je trouve l'excès d'informations permanentes, quotidiennes, répétitives, je trouve que ça entraîne des effets qui peut-être ne sont pas aussi pertinents qu'on pourrait le souhaiter, je trouve que il y a des musiques qui m'importunent, etc., voilà. Mais globalement, oui, j'adhère. Et en même temps, je me sens dépassé par l'époque. Je me sens dépassé, micro-informatique, etc., je peux suivre, mais j'arrive pas à suivre jusqu'au bout, je me perds dans les codes, vous voyez. Voilà, il y a un peu les deux.
Est-ce que vous ressentez cette anxiété moderne dont vous parlez dans l'histoire de la fatigue ?
Oui, parce que, alors, anxiété, c'est un grand mot, mais évidemment, à partir du moment où le psychique est de plus en plus important, l'inquiétude est inévitable parce que le psychique ne peut pas vous satisfaire complètement. Et de surcroît, alors ça c'est quelque chose qui me paraît très important et qui est tout à fait caractéristique d'aujourd'hui, et de surcroît, les individus se sentent de plus en plus autonomes. Ils ont le sentiment qu'ils décident, la publicité le leur montre. Ils ont le sentiment qu'ils valent aussi, puisque je le vaux bien.
Oui.
Bon, tout cela entraîne cette sorte, moi je dirais, sentiment d'ascendance de soi. Or, du coup, tout ce qui vient heurter cette ascendance, tout ce qui est dehors de la domination, tout ce qui est dehors de la contrainte est beaucoup moins supporté.
Des limites aussi.
Et des limites. Et je pense, alors pour aller très vite et évidemment faire des rapprochements qui sont un petit peu contestables, rapides et un peu caricaturaux, mais je crois que les grandes contestations d'aujourd'hui sont liées à ce genre de choses.
C'est-à-dire
un sentiment que vous êtes limité, que vous pouvez pas, que qu'on vous interdit, que votre autonomie est contrainte, etc. Regardez à quel point le mot de liberté revient, sous une forme que je conteste totalement d'ailleurs, qui est complètement illusoire. Mais regardez à quel point ce mot revient.
Oui, c'est le triomphe, c'est ce que vous écrivez, Georges Vigarello, d'une mystique de la libération et de l'accomplissement. Mais on ne peut s'empêcher, justement, quand on balaye plusieurs époques, de voir le progrès de la science, de l'hygiène, pour
Exactement.
La maladie, les soins du corps.
Exactement.
Et en même temps, vous qui vous intéressez au corps, est-ce qu'on dit concerne pas un hubris, un trop grand orgueil concernant l'apparence du corps ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait avoir une apparence totalement autre, et c'est possible, et combattre la mort ?
Oui, bien sûr, mais là encore, pour moi, c'est un progrès. Quand je lis des textes du 17e où, au fond, votre corps vous condamne, vous pouvez pas trop le transformer. Et quand je commence à lire le texte magnifique de Baudelaire sur le maquillage, Baudelaire dit, mais vous êtes l'artiste de vous-même. Vous pouvez créer un mystère en travaillant sur votre apparence. Quand je lis cela et que je vois ensuite à quel point les techniques d'aujourd'hui vous donnent le sentiment que vous pouvez vous transformer, à la fois à travers, je dirais, l'apparence immédiate, mais aussi à travers la façon dont vous vous ressentez. L'entraînement en est un exemple. Quand je vois ça, je dis c'est quand même un progrès. Évidemment, un danger, mais c'est un progrès.
Et justement, vous, Georges Vigarello, vous voulez un peu demander tout à l'heure, mais je voulais resituer hors antenne, quel est votre rapport à votre propre corps? Êtes-vous content d'être dans cette enveloppe corporelle? Aimez-vous votre apparence?
Alors, il y a une phrase de Michel Foucault qui m'a toujours frappé et qui dit « Notre corps, c'est notre limite absolue. On ne peut rien changer. » Il y a une sorte d'utopie qui est impossible, c'est celle du changement. Alors moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a possibilité de changer. Et en même temps, vous avez des limites incontournables. Et alors, ces limites, elles vous sont données par les autres. Voyez, j'en citerai deux en ce qui me concerne. Moi, je me sens tout à fait normal et tranquille, si vous voulez. Mais, par exemple, tel médecin me dit « Ah, vous êtes sportif ? Ah, je vous croyais plus grand. » Vous voyez ? Premier exemple. Deuxième exemple, je vais prendre un billet dans un musée et aussitôt, on me donne un billet de troisième âge. Je dis, mais c'est pas possible, comment ça fait-il? Donc c'est les autres qui vous disent vos propres limites. Et je pense qu'il faut savoir les négocier et, je vous dirais très franchement, les surmonter.
Et vous adhérez de nouveau, Georges Vigarello?
Oui.
Bravo. Extrait du poème symphonique Les Idéaux de Liszt, interprété par le Gewandhaus Orchester de Leipzig, dirigé par Kurt Masur, pour introduire l'idée que vous nous avez soumise, Georges Vigarello, quand on vous a demandé ce que vous aimeriez changer dans votre environnement. Vous avez répondu ceci: l'utopie et les transcendances nous ont quittés avec le XXe siècle, restent des espoirs de changements plus locaux, l'université est un bon exemple, nécessité d'une attention plus aiguë aux étudiants, valorisation toujours plus accentuée de la recherche, prise en compte plus sérieuse des sciences sociales. On ne les prend toujours pas au sérieux, ces sciences sociales?
Il y a un paradoxe très fort. Il y a un paradoxe qu'on pourrait présenter de la manière suivante. Je reviens à ce que je disais, la psychologie est de plus en plus présente dans les magazines, de plus en plus présente dans les thèses, dans les ouvrages, dans les romans, etc. La sociologie est également présente. La question des sondages montre à quel point la sociologie peut nous apporter des précisions qui sont absolument fondamentale. Et en même temps, quand vous êtes dans l'université et que vous vivez la manière dont l'université traite les sciences humaines, vous vous rendez compte qu'elle mériterait beaucoup plus. Et c'est très difficile de mesurer leur importance. Je vous cite un exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le monde du sport. Bon, ce qui vient spontanément à l'idée dans le monde du sport, c'est de favoriser, évidemment, les calculs, de favoriser la physiologie, de favoriser la manière dont la chair elle-même peut être transformée. Or, il se trouve que la chair se transforme, mais les questions psychologiques concernant les performances sont tout aussi importantes. Or, quand vous regardez la manière dont les postes se distribuent dans les centres qu'on appelle STAPS, sciences et techniques et activités physiques et sportives. J'avais beaucoup, moi, calculé les postes, etc. Vous vous rendez compte que les postes concernant la physiologie sont 10 fois plus nombreux que les postes concernant la psychologie ou la sociologie. Alors que les travaux de psychologie sont très fins, très subtils, montrent l'immense importance que peut avoir la résonance de soi sur la performance.
Georges Vigarello, aujourd'hui, votre engagement passe par vos recherches. Il y a beaucoup d'angles morts, de documents qu'on ne trouve pas, de questions sans réponse, de délais qui mettent la patience à l'épreuve. Vous n'êtes jamais découragé?
Non, jamais. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et en particulier en période de Covid, fréquenter la Bibliothèque nationale, c'est vraiment un parcours du combattant, vous voyez, ou fréquenter des archives. Bon, mais non, c'est impossible de se décourager. C'est impossible, ça n'aura aucun
impossible.
Sens. Non, moi je peux pas, non, c'est pas possible. Non, il y a une passion qui vous tient, il y a une passion en quelque sorte qui vous pousse, Et cette passion, elle est centrée sur le fait que vous pouvez aller au-delà, que vous pouvez finir par trouver. Ah non, je ne cède pas.
Georges Vigarello, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez répondu achever un ensemble relativement unifié sur l'histoire du corps. Vous avez traité dans vos ouvrages du corps blessé, soigné, voilà. Lavé, violé, montré, paré, oui. Embelli, oui. En action. On peut dire que cet ensemble existe déjà.
Ah, cet ensemble existe, mais il peut apparaître comme relativement dispersé.
Ah oui, mais selon vous.
Enfin bon, selon moi, oui. Moi, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça peut donner ce sentiment-là. Mais il y a un autre problème concernant le corps, c'est que justement, si on revient au problème de la recherche, sciences humaines, sciences exactes, etc., c'est pas toujours pris comme un objet susceptible de précision et d'objectivation. Ça nous échappe, c'est dans la sensation, c'est pas très sérieux, etc. Or, quand vous y réfléchissez, vous voyez très bien qu'il y a des modes, par exemple, de se représenter le corps, vous voyez, qui finissent par avoir une importance centrale et qui orchestrent votre comportement. Prenons une période ancienne sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Par exemple, je ne sais pas, Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on se représente le corps comme étant un lieu de liquide. C'est absolument les humeurs qui sont au cœur du fonctionnement du corps, sont elles qui donnent la valeur du corps. On les voit, elles sortent, elles disparaissent quand vous êtes blessé, quand vous êtes ému, elles vous font rougir, etc. Donc c'est les humeurs qui sont au centre. Bien, mais cette idée de mettre les humeurs au centre commande des comportements les plus différents qui soient. Il y a une façon de s'habiller pour protéger les humeurs. Il y a une façon de faire circuler l'air pour que les humeurs soient relativement épurées. Il y a une manière de manger qui renvoie à l'épurement, précisément, des humeurs internes. Il y a une manière de pratiquer l'exercice. Donc, vous voyez, une représentation du corps commande absolument des diversités de pratiques. Ça, je trouve que c'est fondamental. Parce que ces représentations, elles changent avec le temps. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est évidemment les questions d'informatique qui sont au cœur de l'imaginaire de notre propre corps. Elles changent avec le temps. Elles vous donnent le sentiment que elles commandent des pratiques. Et donc, si vous vous en tenez à la différence des pratiques, évidemment, le corps, c'est la dispersion. Oui, c'est la chaleur, c'est l'air, c'est les fenêtres. Etc. Mais si vous intéressez aux représentations, c'est plus du tout de la dispersion, c'est de l'unité. Donc c'est ça sur quoi il faut travailler, et c'est ça qui, à mon avis, légitime à la fois une histoire du corps et légitime sans doute un travail de synthèse que je n'ai pas encore fait.
Mais c'est en cours et c'est très bien parti. Georges Vigarello, je précise pour les auditeurs, car tout le monde ne le sait pas, vous avez aussi enseigné l'EPS au lycée Michelet. C'est merveilleux dans un lycée qui porte le nom d'un historien.
Oui.
J'ose une question un peu personnelle.
Mais osez.
Oui. Votre corps à vous, l'avez-vous toujours entretenu et vous est-il arrivé de le maltraiter ?
J'ai pas le sentiment de l'avoir maltraité. Peut-être pas aussi entretenu qu'il aurait mérité de l'être. Mais j'ai pas le sentiment de l'avoir maltraité. Non. Ah, peut-être le fait de travailler, par exemple, très tard, de dormir pas beaucoup. Oui, peut-être. Mais j'ai pas le sentiment en même temps que ça le maltraite. Parce que si je ne dors pas beaucoup, je rattrape le sommeil, voyez-vous. Je peux faire une sieste, etc. Donc non, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plutôt le sentiment que parfois, je ne suis pas suffisamment occupé de lui comme il aurait fallu que je le fasse, mais en même temps, c'est des petites périodes qui sont plus ou moins oubliées. Je suis quand même les problèmes de mon propre corps. Alors pour revenir au lycée Michelet, moi j'ai adoré au lycée Michelet, j'ai adoré. Et par exemple, ce que j'aimais beaucoup, c'était faire le tour du parc avec les élèves. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était leur apprendre des pratiques plus ou moins de plaisir et de vertige. Vous voyez, par exemple, les sauts d'œufs et les sauts, etc.
Plaisir et vertige en cours de PS.
Oui, absolument.
Avec Georges Vigarello.
Je trouve que c'est très important. Parce que ça renvoie à des sensibilités d'aujourd'hui. Je trouve que la sensibilité d'aujourd'hui, elle va plus dans ce que l'on pourrait appeler un gestuel de contrôle et un gestuel de vertige qu'un gestuel d'effort et qu'un gestuel de contrainte. Ça, c'était Baudrillard qui l'avait très bien montré. Il disait, aujourd'hui, c'est un gestuel de contrôle et puis un gestuel d'effort.
Il était fort en vocabulaire, ce Baudrillard.
Absolument.
Ça ne vous ennuie pas de vous promener comme ça avec un homme qui ne dit rien ?
Non.
Ah.
Puis, quand on se tait, c'est qu'on a beaucoup de choses à se dire.
Mmh.
On essaie de penser à ce que l'autre pense. C'est agréable.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Non. Non, je ne pense à rien, je suis très bien. Je suis très heureuse que vous m'ayez emmenée avec vous. C'est tout.
Eh ben, on n'est pas difficile, une petite promenade comme ça sur la plage, et puis vous voilà heureuse comme les enfants.
Ah, je voudrais bien être encore comme les enfants. Quand j'étais petite, c'était tellement simple. J'étais heureuse, je riais, j'étais malheureuse, je pleurais. Et maintenant?
Quoi maintenant?
Oh, maintenant c'est plus pareil. Je suis heureuse, malheureuse, tout est mélangé, on ne s'y retrouve plus.
1941, Remorque de Jean Grémillon avec Michel Morgan et Jean Gabin, qui fut votre modèle, Georges Vigarello, durant l'adolescence, notamment par son aspect fort et taiseux. Est-ce que vous l'avez imité et est-ce que vous l'aimez dans les films de Truand, par exemple?
Je vois que je vous ai fait des aveux.
Oui.
Qui sont.
J'inspire la confiance.
Qui sont indiscutablement présents dans les échanges. Alors, je ne sais pas. Non, je ne sais pas si j'ai imité Gabin. Jamais je me permettrai ce genre de rapprochement. Mais c'est vrai que dans l'adolescence, il m'a beaucoup impressionné. Un film comme Le Président d'Henri Verneuil ou dans Les Misérables, par exemple, de Jean-Paul Le Chanoine. Alors pourquoi ? Les Misérables, c'est 58. Alors pourquoi ? Parce que c'était un homme indiscutablement fort, avec une apparence de densité, une apparence de maîtrise. Et en même temps, il ne parlait pas beaucoup. Et cette présence était suffisante pour en imposer. Alors il y a des échanges magnifiques entre Blier et lui, où on voit très bien que, en quelques mots, il arrive à dominer totalement. Et dans l'adolescence, c'est important parce que vous avez tendance, au contraire, à trop en faire, à vous laisser déborder, etc. Et là, c'était un exemple magnifique à la fois de maîtrise, mais de force intérieure. C'est ça, voilà.
Georges Vigarello, il y a d'autres corps qui vous éblouissent, parfois par leur éloquence silencieuse, on reste malgré tout dans le silence, comme ceux du temple de la Renaissance florentine, construit entre 1560 et 1580, la Galerie des Offices de Florence.
Oui.
Est-ce que ça rentre dans la catégorie de ce qui a changé votre rapport au monde, ou de ce qui vous a aidé à faire face au monde ?
Non, ça m'a aidé à réfléchir au thème du corps, parce que le corps, c'est ce qui a conduit au livre sur la silhouette, vous voyez. Parce que le corps, c'est un lieu, bien sûr, d'activité, d'expression, etc. Et en même temps, c'est un lieu silencieux. La peinture le montre magnifiquement. Moi, ce que je trouve merveilleux dans la peinture, d'ailleurs, on est en train de préparer une exposition au musée Marmottan sur le théâtre des émotions à travers la peinture. Ce que la peinture montre magnifiquement, c'est l'éloquence, en quelque sorte, du corps dans quelque chose qui reste totalement silencieux. De même que je m'étais beaucoup intéressé à la façon dont la peinture traduit le mouvement. Elle traduit le mouvement et ça ne parle pas. C'est à vous de déceler, vous voyez. Et donc, oui, ça m'a aidé, à mon sens, à réfléchir sur la façon dont le corps dit des choses.
Nous sommes dans un monde culturel, je parle en tout cas du milieu intellectuel, où il y a un immense, ce qu'on appelle un surmoi, une contrainte, n'est-ce pas ? On est obligé, on se croit obligé de lire certains livres et on se sentirait très coupable si on ne les avait pas lus. Alors j'ai voulu un peu réagir contre cette sorte de contrainte et expliquer d'ailleurs que très souvent nous connaissons des livres sans vraiment les avoir lus. Il y a une espèce d'osmose culturelle qui se produit. Et il ne faut pas être esclave de la lecture littérale d'un livre. Un livre a une autre vie aussi que la vie de la lettre. Il vient dans les conversations, dans les réactions des amis. Et c'est une façon d'exister pour le livre aussi.
Roland Barthes, dans Radioscopie de Jacques Chancel en février 75. Barthes, dont le recueil Mythologie paru en 57, reste pour vous, Georges Vigarello, un modèle pour penser notre réalité. En quoi ces 53 textes décrits par Barthes comme une collection de matériaux d'analyse de la vie quotidienne moderne à nous, Français, est un modèle?
Ah, c'est un modèle. Alors, au-delà de l'écriture qui est somptueuse.
Somptueuse.
C'est un modèle.
Et drôle.
Et
il y a
drôle,
beaucoup d'humour dans
drôle, extrêmement fine, subtile. Non, au-delà de ça, je crois que Barthes est vraiment quelqu'un qui a réussi à montrer, à travers des exemples totalement indiscutables, extrêmement frappants, réussi à montrer ce qui est dessous. Et je pense à la déesse. Moi, ça m'avait frappé, cette lecture de la déesse. C'est une voiture, évidemment, mais qui renvoie à des normes nouvelles, hein, qui ne sont pas dites, là encore. C'est le rapport au non-dit et au montré. Ces normes nouvelles ne sont pas dites. Il y a une rapidité intérieure. Il y a une manière d'en faire une bulle d'air avec ses immenses vitres. Il y a une façon de la coudre comme si elle n'avait aucune rupture. C'est une sorte de goutte d'huile qui fonce, vous voyez, et qui en même temps fonce dans quelque chose qui est silencieux. C'est une nouvelle manière d'imaginer la vitesse et d'imaginer le contrôle. Je reviens toujours au mot de tout à l'heure. Donc, Barthes, en montrant le dessous des choses, d'une façon qui est une fabuleuse subtilité, je crois, enfin, nous introduit dans une compréhension du monde et du monde d'aujourd'hui, même si c'est un texte qui est écrit dans les années 50.
Et le contrôle de l'apparence aussi, je pense notamment à une entrée que j'aime beaucoup qui est sur les franges des acteurs romains dans les films.
Exactement.
Où qui, en fait, on cache Enfin, c'est magnifique, vraiment, à lire absolument. Et alors, de qui peut-on parler après Barthes? Bah, évidemment, de ce Coco-là.
Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs. Il est lié à tous les ailleurs du monde. Et à vrai dire, il est ailleurs que dans le monde. Car c'est autour de lui que les choses sont disposées. C'est par rapport à lui, et par rapport à lui comme par rapport à un souverain, qu'il y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche, un avant, un arrière, un proche, un lointain. Le corps, il est le point zéro du monde, là où les chemins et les espaces viennent se croiser. Le corps, il n'est nulle part. Il est au cœur du monde, ce petit noyau utopique, à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses en leur place, et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j'imagine.
Le philosophe Michel Foucault, en 1966, lors d'une conférence diffusée sur France Culture sous le titre « Les hétérotopies et l'utopie du corps », c'est fait pour vous, Georges Vigarello. Vous appréciez son art de choisir des sujets inattendus, devenus des manières d'éclairer notre culture.
Je crois qu'il est incomparable, ne serait-ce que dans la manière dont il s'exprime. Il est d'une richesse absolument folle. Et ça me rappelle d'ailleurs des textes de Merleau-Ponty disant « Le corps, c'est notre manière d'entrer dans le monde, c'est ce qui orchestre le monde ». Mais Foucault, il a quand même inventé beaucoup de choses. Alors, par exemple, il y a un chapitre que j'ai toujours trouvé magnifique dans « Surveiller et punir » qui s'intitule « Les corps dociles ». Qu'est-ce qu'il montre? Il montre que en contraignant les corps à un certain nombre d'actes, alors il prend les exemples dans les hôpitaux généraux du XVIIe siècle, en contraignant le corps à faire certains actes, vous entraînez quelque chose qui est dans la pensée. Vous entraînez, vous fabriquez de l'âme, voyez? Donc ça, c'est magnifique. De même, il y a un autre ouvrage qui m'avait beaucoup frappé, qui est un petit peu oublié, c'est La naissance de la clinique. Alors, La naissance de la clinique, c'est une réflexion sur la façon dont, au fond, l'hôpital gère la maladie. Et il montre qu'il y a une rupture radicale, qui renvoie à des questions que nous posions tout à l'heure. Il y a une rupture radicale au début du XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est, cette rupture? Ben, c'est aller vers le malade en n'ayant plus d'a priori, en n'ayant plus d'image, en quelque sorte, de la maladie dans sa tête, mais en écoutant le malade. En écoutant le malade, en étant prêt à renverser en quelque sorte les images que l'on se fait de la maladie, en étant centré sur quelque chose qui est totalement individuel, et en allant dans le sens d'une maladie qui de toute façon est individualisée. Donc c'est quoi? C'est accentue l'invention de l'individu. Ça accentue l'invention du principe totalement singulier que chacun peut présenter. Et là, Foucault est absolument magistral.
Rolling down the track.
design du groupe Hills dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de l'historien Georges Vigarello.
Soit forçat ou lépreux, infâme ou malade, l'homme n'a qu'une pensée, trouver le complice ou le compagnon de son destin. Veux-tu être celui-là ?
Vous faites un étrange prêtre, monsieur l'abbé.
Il ne faut pas se fier aux apparences, mon enfant. On vous a chassé de Paris. Je vous y ferai rouler carrosse avant 6 mois, avec les armes de votre marquise aggravées sur les portières. Obéissez, et vous serez aussi grand que vous avez été petit. Je concevrai et vous exécuterai, et Paris nous appartiendra.
Michel Simon dans le film Vautrin de 1943 de Pierre Billon, adaptation du personnage qui apparaît dans plusieurs romans de Balzac, dont vous recommandez la lecture, Georges Vigarello, à tous les auditeurs pour être armés dans l'existence. On va parler de Rousseau dans quelques minutes, et à un moment dans les confessions de Rousseau, Rousseau dit qu'il a lu si tôt qu'en fait il connaissait absolument tous les sentiments humains, il avait tout vécu sans les avoir vécus dans le réel, il avait tout ressenti. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé à la lecture de la Comédie humaine ?
Alors, la lecture de la Comédie humaine, en ce qui me concerne, elle s'est effectuée en plusieurs temps.
Oui.
Je pense que j'ai été victime dans des premières périodes de lecture d'une idée toute faite qui était au fond, Balzac, c'est du romantisme. Donc, le Lys dans la vallée, bon, ben, c'est l'amour, c'est romantique, c'est le milieu des campagnes, le végétal, etc., le soleil, bon, bref. Et ça, c'est un moment que par certains côtés j'apprécie, mais que par d'autres côtés je regrette. Parce que Balzac, c'est bien autre chose. Et en particulier, c'est la mise en place d'un véritable univers, d'un monde, avec sa diversité, avec sa complexité. Il y a quand même 3000 personnages. Avec une façon aussi de décrire les corps, de mettre en place du psychologique, de mettre en place du social.
Le mot cambrure, c'est lui qui l'utilise.
Alors par exemple, il y a des mots nouveaux. J'avais découvert effectivement en travaillant sur la silhouette que lui découvre le mot cambrure. Et il a une manière extraordinaire de décrire les corps comme des corvettes cambrées dont les voiles permettent d'illustrer la cambrure, etc. Vous voyez, il y a des choses, il y a une écriture en plus chez Balzac. Donc c'est assez construit lentement la manière dont j'approche Balzac. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un auteur absolument fabuleux et incomparable. Bien sûr, il y a d'autres auteurs aussi qui sont extraordinaires. Bon, mais c'est cette sorte de diversité et d'unité, un monde total. Vous lisez le 19e siècle dans les années 30-40 avec sa réalité la plus profonde, et en même temps, ça nous dit des choses aujourd'hui. Dans l'ambition, dans la manière de dominer, dans les échecs. Je pense à Savarus. Savarus qui part de Paris, qui va essayer de réussir en province, sa députation, qui passe un temps fou, et puis qui finalement traduit physiquement la douleur qu'il éprouve, le mot de tête, les vertus. Vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinairement riche à la fois psychologique, social, physiologique, etc. J'arrête.
Ah non, mais c'est merveilleux.
Bah oui.
Et puis si on aime les chutes et les effondrements, il faut lire Balzac, ceux des autres.
Mais les remontées aussi, les oui. Renaissances.
Oui, oui, mais un peu moins flamboyantes.
Oui.
Georges Vigarello, je vous ai demandé de choisir quelque chose de beau pour les auditeurs. Voici ce que vous auriez pu choisir. Adagio du concerto de clarinette de Mozart, composé en 1791, interprété ici par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Claudio Abbado, à la clarinette Sabine Meyer. Et ce qui est émouvant, c'est que la clarinette a été introduite il y a peu dans l'orchestre, justement, dans lequel s'encanaille Mozart. Et Mozart est très enthousiasmé de la sonorité de la clarinette. C'est assez inédit pour lui. Vous auriez pu choisir cela, Georges Vigarello, donc je vais quand même vous demander de dire un petit mot sur cet air. Et en fait, après, je vais évidemment révéler, car le suspense ne tient jamais longtemps,
oui.
Ce que vous avez choisi à la place.
Mais parce que ça me paraît quelque chose qui touche à l'exceptionnel, un peu. Il y a un sentiment de divin, un sentiment d'incomparable, d'unique, voyez-vous. Ça me touche beaucoup. En plus, là, l'interprétation est magnifique, hein. Avec une lenteur totalement calculée, extraordinaire. Et puis il y a ce son de la, un peu aigrelé, très fin de la clarinette. Moi, je suis très sensible à ces sons-là, le son de la flûte, etc. Vous voyez, les indels, les bacs avec la flûte, je trouve ça fabuleux. Donc il y a un côté un peu unique en quelque sorte de la beauté. Je pense qu'on peut commencer par cela.
Oui, le côté unique de la beauté, ça fonctionne toujours.
Oui.
Et si on continue sur notre quête de la beauté, on continue.
Oui.
Vous avez choisi, comme vous aimez Georges Vigarello, le travail des comparaisons, des ruptures,
voilà,
des mises en perspective,
voilà,
les confessions de Rousseau, qui s'enrichissent à la lecture des essais de Montaigne et vice-versa. Et ce qui est amusant quand on lit les deux, bien que les époques diffèrent,
absolument,
beaucoup, c'est que les deux disent, attention, je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait.
Oui. Alors, vous voyez, il y a cette vision un peu d'unicité, d'unique, la beauté est unique, bon. Et puis, il y a cette vision que ce qui provoque de l'enrichissement personnel, de l'intérêt, etc., c'est de la comparaison. C'est, alors moi je suis très sensible à l'histoire, par exemple à la rupture, donc comparer une époque par rapport à l'autre, et en quoi une époque nouvelle, bien, elle quitte les repères qui sont les repères anciens. Alors pourquoi je cite Montaigne et pourquoi je cite Rousseau? Parce que Montaigne, c'est un inventeur extraordinaire qui commence en pleine Renaissance à parler à titre personnel, à faire un texte où c'est le J-E qui est au centre.
À se prendre pour sujet d'étude.
Absolument. Il se prend comme sujet d'étude. Alors c'est fou par rapport à ce que vous disiez. Enfin, il y a quelques petits exemples par exemple qui sont pas du même niveau. Je pense à Benvenuto Cellini, à une très belle au Cardan, ont de très beaux textes personnels. Mais aucun n'atteint la richesse et la profondeur du texte de Montaigne. Donc c'est un jeu qui est au centre, J-E. Mais en fait, quand vous lisez, alors du coup c'est d'une richesse tout à fait, je dirais, exceptionnelle, mais quand vous lisez le texte, vous rendez compte que ce jeu n'a de sens que par rapport à l'homme. C'est-à-dire que je suis un représentant de l'humaine condition. Et mon jeu vous permet de mieux comprendre s'il en est de l'homme. Bien. Lorsque vous lisez Rousseau, c'est pas le même problème. Autrement dit, Rousseau met également le jeu en avant. Mais c'est pas pour montrer ce qu'est l'homme, c'est pour montrer ce que je suis. Donc il y a quelque chose qui s'est creusé dans la façon dont l'individu se pense et en quelque sorte se met en spectacle, si je peux dire les choses comme cela. Et Rousseau, de ce point de vue, je dirais, à la fois, peut avoir un côté un peu plus désagréable que Montaigne, parce qu'il est toujours en train de se justifier.
Ah oui, moi j'adore ça chez Rousseau, je le trouve, voilà, très attendrissant.
Il faut qu'il se justifie, oui, il faut qu'il légitime.
Et puis quand personne ne parle de lui, il arrive dans la salle et il dit « arrêtez de m'attaquer ».
Voilà, absolument, il y a une paranoïa, il y a en même temps un discours pro-domo, etc. Mais en même temps, c'est une mise en scène tout à fait, je dirais, nouvelle, renouvelée, de soi. Lorsqu'il parle, il en parle pour lui, il en parle uniquement comme exemple personnel. Lorsqu'il parle de ses douleurs quand il était enfant, ses vertiges qu'il a subis, etc. Bon, très bien. Ça, c'est une deuxième étape. Mais il y a une troisième. Alors, je dirais même aujourd'hui, c'est encore plus loin. Il y a une troisième. C'est l'invention du journal intime, qui va au-delà. Le journal intime, c'est un journal qui crée vraiment, qui est plus de l'ordre de Rousseau, qui crée un nouveau genre, en quelque sorte, au début du 19e, et qui n'est pas du tout fait pour se justifier, c'est pas un argument pro-domo, c'est même pas un journal qui est fait pour être publié, mais c'est un journal qui est fait pour mieux se comprendre, pour mieux arriver à savoir quels sont les troubles que j'éprouve lorsqu'on me dit telle ou telle chose, quelles sont mes défaillances, etc. Et donc mieux se connaître, Maine de Biran, etc. Vous voyez ? Donc là, si vous mettez dans la perspective Montaigne, Rousseau et Maine de Biran, vous avez un travail d'approfondissement. Et c'est ça que je trouve très intéressant lorsqu'on réfléchit à la question de la beauté ou à la question de la littérature.
Justement, la dernière question s'inscrit parfaitement dans ça, puisque j'aimerais mettre dans cette perspective Georges Vigarello, c'est-à-dire vous-même. Je vous ai demandé de prendre un petit engagement à la sortie de cette émission vis-à-vis de vous-même ou de l'extérieur, et vous avez choisi de clarifier au maximum ce qui commande votre propre comportement.
Mais absolument.
C'est dans la lignée des confessions.
Absolument, absolument. Moi, je trouve que cette émission m'a beaucoup plu, parce que ça nous amène à réfléchir encore davantage à ce que nous sommes.
Et vous avez déjà quelques indices de ce qui dicte votre comportement, Georges Vigarello ?
Ah ben, c'est pas des indices physiques précisément, ce sont des indices psychologiques. Des indices d'écoute davantage, d'être plus attentif, d'être plus prudent, plus surveillé, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens de la contrainte, dans le sens de l'éclaircissement.
Vous y travaillez activement ?
C'est quelque chose qui me préoccupe, oui.
Vous tenez un journal ?
Mais vous voyez, moi depuis très longtemps, hein, un grand texte m'avait profondément atteint. C'était le texte sur la psychanalyse de Freud. non pas pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure en voix off, pour dire vous avez nous avons des surmois qui nous écrasent, mais au contraire, pour mieux prendre la mesure des surmois. C'est plutôt ça.
Oui,
et donc arriver à les négocier.
Négocions. Georges Vigarello, merci beaucoup d'être venu.
C'était un grand plaisir.
Votre dernier ouvrage est la passionnante histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours, paru au Seuil, et a signalé le 4 novembre prochain la réédition en poche de votre livre La Robe, une histoire culturelle du Moyen-Âge à aujourd'hui, aux éditions Point, avec une recomposition des illustrations. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que le mouvement de votre âme aura le virevoltement distingué d'un palmier autodidacte. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.